Salut tout le monde, nous sommes le Conseil des jeunes de Mulhouse et on se retrouve aujourd'hui pour la pause Chocolat Show. Notre projet consiste à interviewer des personnalités publiques pour qu'ils nous parlent de leur parcours scolaire et professionnel afin d'aider les jeunes et les rassurer dans leur choix d'orientation. Pour y arriver, nous utilisons différents moyens de prévention, donc en plus de notre podcast, nous prévoyons de distribuer des flyers et des squishies auprès des jeunes et plus particulièrement dans les établissements scolaires. Ces dispositifs vont nous permettre d'aider les jeunes face à la pression scolaire, mais également au stress du quotidien. Et maintenant, je vous laisse écouter le podcast.
Du coup, enchanté, bienvenue dans le podcast Chocolat Chaud.
Merci.
Je m'appelle Mélie. Aujourd'hui, on est en compagnie de Armel Fesch, ex-championne de France, ex-capitaine de France de l'équipe de volleyball féminine. Je vais laisser d'abord vous présenter.
Ok, Armel Fesch-Pellerin. J'ai 42 ans, je travaille actuellement à la ville de Mulhouse à l'événementiel sportif et je suis ancienne professionnelle de volley. J'ai joué 10 ans à Mulhouse et j'ai une carrière de 16 saisons. J'ai joué dans plusieurs clubs en France, dont Cannes qui était longtemps champion de France. Voilà, je suis maman de 2 enfants.
Super.
On notera qu'elle ne les fait pas, elle est 42 ans.
Merci, c'est gentil.
On peut continuer en se présentant nous, peut-être.
Moi, je m'appelle Lilia, je suis au lycée Schweizer, je passe en terminale.
Moi, je m'appelle Saïd Boukara, je suis lycéen également au lycée Schweizer et je vais passer en premier.
Super. Moi, c'est Mélie, pareil, au lycée Albert Schweizer. Donc, tu peux présenter le projet, Lilia?
Donc, en fait, notre projet consiste à réaliser un podcast. On invite plusieurs personnalités publiques de Mulhouse pour qu'ils en parlent plus sur leur parcours et sur s'ils peuvent nous donner des petits tips pour gérer le stress. Ce podcast il est disponible sur nos squishies via un QR code. Ces squishies on va les distribuer dans les lycées à la rentrée pour que les lycéens peuvent écouter le podcast en allant en cours ou même chez eux.
Voilà.
Du coup, si vous pouvez piocher une carte et on la lira et vous pourrez y répondre.
Ok.
Qui vous a inspiré à l'époque et qui vous inspire aujourd'hui ?
Alors, à l'époque, quand j'étais joueuse professionnelle, c'était des volleyeuses professionnelles comme Karine Salinas, Kirillova, Victoria Rava, c'est des joueuses qui sont assez vieilles, mais que les puristes connaissent encore. Parce que, déjà par leur niveau, mais par leur mentalité, leur envie d'aller jusqu'au bout et leur joie de vivre. Parce que même quand on est professionnel, que ce soit dans le sport ou dans la vie active, etc., il faut penser que... on est heureux, on est en vie et on a la chance d'être en bonne santé, donc voilà, il faut en profiter.
Super. Ok, je peux enchaîner ?
Oui.
Alors, quelles ont été vos motivations lorsque vous avez choisi votre métier actuel ?
Alors, l'événementiel sportif, au sein de la ville, on a de la chance d'avoir le parcours d'excellence sportive, donc c'est un dispositif qui a été créé pour les sportifs, les jeunes sportifs et les un peu plus anciens qui ont le projet d'avoir le double niveau, double projet, donc le sport et les études. Et moi, en ayant fait ma carrière de sportif professionnel, j'ai pas eu la chance de faire des études en même temps. Les clubs où j'étais m'ont un peu interdit, donc j'avais pas vraiment de diplôme en fin de carrière. Et ce dispositif de la ville m'a proposé de rentrer en tant que vacataire à la ville, à la direction des sports. Et en fait, de là, j'ai commencé à travailler avec les anciens qui sont partis maintenant à la retraite, mais avec qui j'ai appris le métier de l'événementiel sportif. Et voilà, mais ça m'a tout de suite plu parce qu'on est toujours dans le sport, c'est quelque chose que je connais, du coup. Mais je ne suis pas tout le temps en jogging, donc ça m'a plu. Voilà.
Donc, est-ce que pour vous, ça a été... Est-ce que parfois ça vous arrive de regretter un petit peu le fait de ne pas avoir pu faire d'études ?
Non, pas forcément. J'ai vécu à fond ma carrière de sportive et on n'y pense pas vraiment finalement. C'est vrai que j'ai certaines lacunes, mais j'arrive à les combler parce que j'ai envie d'apprendre et j'ai pas envie d'être là à galérer sur l'ordi, etc. Donc j'essaye d'apprendre aussi et je continue à apprendre. J'ai encore plein de choses à apprendre. Mais non, je regrette pas et j'essaye de ne pas regretter pour le coup parce que sinon, en vivre avec des regrets, on se pose toujours plein de questions et c'est pas cool.
C'est vrai. Mélie, je te laisse enchaîner.
Oui, merci. Vous préférez que je vous tutoie du coup ?
Ouais, okay. Tutoie. Oui.
Du coup, comment gères-tu le stress avant une compétition ?
Le stress, on arrive à l'éliminer quand on s'entraîne à fond tout le temps, quand on travaille beaucoup. Il y a une partie du stress qui s'en va parce qu'on sait ce qu'on va faire et quand on se connaît et qu'on connaît son niveau, c'est quand on a des valeurs aussi de ne jamais rien lâcher. Il y a déjà une partie de stress qui s'en va et le stress, ça, tu écoutes de la musique, tu essayes de te défouler un peu avant de partir au match et après, moi j'ai besoin de beaucoup de crier. Donc quand j'étais sur le terrain, je criais beaucoup pour que l'anxiété parte et le stress aussi et voilà. Mais après le stress, je l'ai toujours, hein, même dans mon métier actuel, quand on prépare un événement. On a toujours du stress de dernière minute, des péripéties, de la météo, etc. Donc après, il faut s'acclimater à ce qui se passe et voilà.
Ok, donc est-ce que pour vous, ce stress-là que vous avez donc, continuellement, c'est plus un poids au quotidien ou c'est plus une source de motivation ?
Non, c'est une source de motivation. Moi, j'aime bien être stressée parce
que...
C'est
un peu au stress.
Ouais, j'aime bien avoir un objectif, avoir un but et atteindre le but, c'est ce qui est de meilleur au final. Donc avoir ce stress, pour moi, ça a toujours été quelque chose de bon. Parce que si moi, quand je stressais pas, j'étais pas assez dedans, j'étais pas concentrée. Donc j'ai besoin de ce stress pour être motivée et atteindre le but et les objectifs.
C'est plus une pression positive qu'autre
oui.
chose.
Oui, ouais. Oui, totalement. Pour moi, en tout cas.
Et du coup, comment tu as vécu ce changement de carrière ?
Alors, on dit toujours que pour un sportif, la retraite est une petite mort. J'ai eu la chance de tomber enceinte tout de suite. Donc la grossesse m'a fait passer à autre chose et voilà. Mais c'est vrai que si j'étais pas tombée enceinte tout de suite, peut-être que là, j'aurais mal vécu. Et je me serais dit, oh, j'aurais pu continuer, etc. Mais non, j'ai eu la chance, j'étais très bien accompagnée, que ce soit au niveau des gens de la ville, du conseil local ou de ma famille. J'ai eu de la chance. Et après, je suis quelqu'un d'assez positif. J'essaye de voir que quand quelque chose se termine, c'est pour une bonne chose aussi. Et voilà, non, c'est une très bonne chose.
C'était pas un changement de carrière trop brut, c'était adouci avec la grossesse, etc. Enfin, vous avez pas changé votre vie du jour au lendemain.
La vie, elle change quand même. On est quand même sous les feux. Alors, j'ai pas sous les feux de la rampe parce que le volet, c'est pas non plus du foot et c'est pas. Mais on est quand même mis en lumière et les gens nous apprécient, on a des petites attentions. Et c'est vrai que du jour au lendemain, je suis quand même passée à rester chez moi enceinte. Mais je l'ai pas mal vécu. Parce que au final, les gens ne nous oublient pas. Enfin, en tout cas, ceux qui nous aiment ne nous oublient pas. Mais c'était vraiment... Et après, je suis restée dans le sport. Donc, le fait d'avoir ma grossesse, l'accouchement, de reprendre la vie active, mais toujours dans le sport, au final, je suis toujours un peu restée au contact des personnes que je connaissais.
En fait, donc, il y a eu une transition qui n'était pas trop violente. Parce que... Donc vous avez rajouté une justification sur le fait de stopper un petit peu.
Oui, exactement. Après, je suis arrivée, j'ai arrêté ma carrière parce que je me faisais vieille. À partir de 30 ans, une femme, alors avant c'était pire, hein. J'ai arrêté il y a 9-10 ans. Mais avant, on n'avait pas les soins et tout ce qu'il y a autour d'une équipe de volley ou des sportifs. Maintenant, ils ont énormément de chance. Et j'avais mal partout et j'avais quand même moins de motivation. Et à partir du moment où tu fais quelque chose en ayant un peu moins de motivation, tu le fais moins bien. Et quand tu sais que tu fais les choses moins bien, que tu n'es pas à ton niveau, tu ne prends plus autant de plaisir. Donc il fallait mettre un terme et je crois que c'était le bon moment.
Il n'y avait pas peut-être une envie de revenir en force Où tu veux.
Après. Après. Non, écoute, je sentais que c'était la fin. Franchement, j'ai arrêté à 33 ans. Je trouve que c'est le bon âge.
Ouais.
En tout cas, c'était pour moi, c'était le bon âge.
Tu peux continuer.
Avez-vous connu des échecs pendant votre parcours et comment vous êtes-vous relevé?
Oui, j'en ai connu. J'en ai connu pas mal. Après, comme je disais tout à l'heure, j'essaye de me dire que si quelque chose de mal arrive, c'est pour forcément soit passer à autre chose ou prendre un autre tournant. Et comment je me suis relevée? En me disant que c'était pas le moment pour moi. Par exemple, un exemple, j'ai pas été sélectionnée pour des championnats d'Europe. Encore j'étais en équipe de France, donc ils m'ont pas sélectionnée. J'ai très mal vécu parce que j'avais le niveau et j'étais censée être sélectionnée. On me l'a pas très bien annoncé, mais ça, après, les gens n'ont pas cette délicatesse-là, mais en tout cas, eux, ils l'ont pas eu. Et comment je me suis relevée? Je me suis dit que c'était aussi bien pour moi d'avoir du temps, d'être un peu au repos, en vacances, et de reprendre une saison avec Mulhouse, en l'occurrence, encore mieux que ce que je n'avais fait auparavant.
Ouais. En fait, c'est vrai que, dit comme ça, on se rend compte qu'une fin, c'est toujours un nouveau commencement, en fait.
Oui, totalement. Mais totalement, ça, c'est pour tout le monde, en plus. Il t'arrive un truc... je vais pas dire une catastrophe, mais quand il t'arrive quelque chose de mauvais, c'est peut-être pas forcément... C'est un mal pour un bien, c'est ce que j'essaie de me dire.
Ouais. Donc, prochaine question. Comment gères-tu le stress? Tu nous as parlé beaucoup de stress, de la manière dont tu t'en sers, mais est-ce que tu as une façon de le gérer particulière?
Actuellement, dans mon boulot actuel, le stress... Alors, avant, quand je jouais, j'essayais de m'extérioriser beaucoup en criant, etc. Là, du coup, si je crie au travail, c'est un peu moins bien vu. Mais je parle beaucoup. Et je vais sortir des blagues, et je vais taper Anthony, mon souffre-douleur. Donc voilà, non, j'essaye de communiquer pour que tout sorte, parce que si je parle pas, tout reste à l'intérieur, et après ça me fait une boule au ventre, et après c'est de pire en pire. Donc j'essaye de communiquer.
En fait, il y a ce besoin de contact, je pense aussi.
Oui, totalement. Totalement, j'ai besoin de contact. En plus, nous, on travaille tout en équipe, que ce soit avec mon collaborateur actuel ou avec les prestataires extérieurs. Du coup, si on est tout en communication, si on n'a pas de retour, etc., on est dans le flou. Et si tu gères pas tout de A à Z et que tu n'as pas de retour de leur part, c'est là que tu stresses vraiment. Donc voilà.
Donc j'harcèle. Tu as trouvé un nouvel exutoire, si on peut dire ça comme ça?
Anthony. Non, oui, mon nouvel exutoire, c'est vraiment de parler, de poser des questions aux autres, de voir ce qu'ils en pensent, de pas tout gérer toute seule. Je pense qu'on n'arrive pas à gérer quelque chose tout seul. Enfin, après, les autres y arrivent peut-être, mais moi, toute seule, j'arrive pas, j'ai besoin de me reposer sur quelqu'un. Et au final, le volet qui est un sport d'équipe, moi j'essaye de faire que mon poste à moi, c'est un poste d'équipe. Et j'avais Mehdi avant, j'ai Dorian maintenant, donc j'essaye de déléguer pour qu'on ait le stress tous les deux et qu'on puisse avancer et qu'on ait moins de pression en fait.
Je trouve ça rare qu'une personne ait le courage de le dire en fait. Parce que de nos jours, c'est un peu mal vu de dire oui, j'ai besoin de me reposer sur quelqu'un, alors qu'en fait, il n'y a rien de mal dans ça.
Non, au contraire, je crois que c'est plutôt. Reconnaître ses faiblesses, je crois que c'est quand même aussi une force, parce que si tu ne sais pas que tu as un point faible, tu ne peux pas t'en sortir. Non, moi je sais que j'ai des lacunes, hein, ça, franchement, je suis la première à demander de l'aide. Donc, non, au contraire, et c'est pour ça que je dis que mes collaborateurs, on est sur la même base. Il n'y en a pas un qui est au-dessus ou qui est en dessous. On doit tout connaître tous les deux à même échelon. Et comme ça, c'est plus facile. Hein.
Tu penses que ça vient du volet, du coup?
Ouais, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Le fait de... les sports d'équipe. Alors, je dis pas que les sports individuels, c'est un autre état d'esprit. Mais c'est vrai que le sport collectif, tu es obligé de te reposer sur quelqu'un. Le volet, tu as toujours la balle qui est en l'air. Si elle tombe par terre, t'es foutu. Donc, il faut que l'autre vienne en entraide. Et Ouais, je pense que ça m'a beaucoup aidé pour la suite de ma vie.
Hein. Ouais, c'est une leçon de vie aussi. Mmh. Hein.
Ah, du coup, étais-tu une bonne élève
à l'école, hein,
oui.
Alors j'ai été très scolaire, donc j'écoutais à l'école assez longtemps. Je faisais mes devoirs, je crois que ça allait ça, et jusque au collège. Arrivé au collège, ça s'est bien passé au début, et c'est fin collège et début lycée où j'ai commencé un peu à être très très à fond dans le volet et à délaisser un peu les cours. Je pense que mes parents, les pauvres, ils ont stressé, et donc je l'étais un peu moins, et pour le coup je suis assez sévère avec mes enfants, enfin en tout cas ma fille qui a commencé les devoirs. Si elle a pas envie de faire ses devoirs, je suis à fond derrière elle, parce que je pense que mes parents ont dû quand même vachement s'arracher les cheveux quand même.
Et vous êtes arrêté au bac ?
Alors j'ai eu mon bac quand j'étais à Cannes. J'ai passé un bac STT, donc c'est sciences et technologies tertiaires, filière administration, ça n'existe plus. Hein.
Je dois peut-être avoir un autre nom, je pense.
Ouais, c'est possible aussi.
Et après, donc j'étais à Cannes. On m'a dit, si tu as ton bac, c'est bien. Si tu l'as pas, bah, tu te débrouilleras pour le repasser en candidat libre. Donc heureusement que je l'ai eu. Et après, j'ai essayé de passer mon BTS assistant de direction par le CNED. J'étais plus trop scolaire. Donc j'ai vite lâché prise, j'ai entendu les cassettes d'allemand. J'ai commencé par l'allemand, je crois que c'était pas la bonne méthode. cassettes en allemand, je comprenais rien, je dis bon, ça va être compliqué. J'ai commencé à essayer par autre chose, enfin continuer par autre chose, et donc j'ai vite lâché prise. Et quand je suis revenue à Mulhouse, donc quelques années après, j'ai passé mon brevet d'état avec spécifique volet que j'ai eu, et voilà.
Mais donc l'école, t'en gardes plutôt un bon souvenir quand même ou...
Ouais, oui, oui, non, je regarde un bon souvenir. J'ai passé de très bonnes années à l'école. Non, non, après, et c'est très important l'école, c'est quand même. Là, franchement, je pense pas être teubée et ne rien savoir. Mais disons que scolairement, c'est vrai que j'aurais pu être plus assidue, et je me rends compte que c'est vraiment très important, même à n'importe quel niveau, que ce soit de la maternelle. Au lycée, après en fac, c'est quelque chose où il faut être vraiment assidu, et même si c'est pas facile, je le conseille.
Après, c'est clair qu'il faut aussi distinguer les différents types d'intelligence, hein, parce que certains n'ont pas fait de grandes études, de longues études, mais en termes d'intelligence relationnelle, d'intelligence émotionnelle, ils sont vraiment supérieurs.
Hein. Oui, ça, oui, non, mais tout à fait. Mais après, je me rends compte que j'ai des lacunes quand même. Alors maintenant, entre le moment où j'ai arrêté les études et maintenant, il y a quand même pas mal qui sont passés entre tout ce qui est informatique, etc. Et après, c'est pour ça qu'on a des formations au final quand on est dans la directive.
Et du coup, est-ce que la compétition, ça impactait ta santé mentale ou...
Oui, quand même. La compétition, surtout que nous, enfin moi dans ma carrière, j'ai pratiquement eu tout le temps 2 matchs par semaine. Donc on avait la compétition européenne, donc c'était la Ligue des Champions, et le championnat de France et Coupe de France. Donc tu es quand même tout le temps sous pression, t'as pas vraiment le temps pour te relâcher, parce que t'as pas de moment où tu peux aller boire vraiment un verre avec tes potes et rentrer à pas d'heure, parce que tu as... Je m'infligeais à avoir une hygiène de vie quand même assez irréprochable pour pas me le reprocher moi après si je loupais quelque chose. Donc j'avais besoin de faire une sieste, donc je partais à l'entraînement le matin, je faisais une sieste avant l'entraînement de l'après-midi, je me couchais tôt le soir, j'essayais de bien manger sainement, et voilà. Donc du coup, le fait d'avoir ces compétitions qui ne s'arrêtaient jamais tout au long de l'année, ça m'impactait parce que je prenais pas le temps forcément d'avoir des loisirs à côté. Mais c'était très bien comme ça, ça m'allait très bien au final.
Okay. À titre personnel, je trouve que c'est vraiment incroyable. Franchement, ça force l'admiration. Merci. Parce qu'avoir une hygiène de vie irréprochable pendant littéralement des années, en fait, c'est pas une mince affaire, en fait.
Oui, mais après, si tu veux vivre ton rêve à fond, je crois qu'il faut t'imposer certaines règles. Alors, c'est vrai, mais franchement, j'ai bu des bières et... j'étais un peu défoncée des fois. Il fallait trouver le bon moment. Tu as les moments pour vivre ta vie, faire le con, et tu as les moments où tu veux absolument aller jusqu'au bout de ton rêve. C'était parce que moi, être professionnelle, c'était mon rêve, donc j'ai voulu le vivre à fond. Donc je me suis donné les moyens pour le vivre vraiment jusqu'au bout, et voilà.
Du coup, c'était une routine qui vous allait ?
Oui. Oui, après je suis assez casanière, mm-hmm. Donc moi cette routine-là m'allait. Sinon, je pense que je l'aurais changée aussi. Tu sais, tu peux aussi virer à un moment donné et te dire, c'est pas la voie qu'il faut suivre. Mais moi, ça m'allait totalement. Hein. Moi, j'aime bien me lever le matin. Je sais ce que je vais manger. Je sais ce qui va se passer dans la journée. Je sais que je vais regarder ça à la télé. Voilà, je suis plus comme ça maintenant. Mais disons qu'à ce moment-là, j'en avais besoin. Le fait, alors moi en tant que sportive de haut niveau, je crois que d'avoir cette routine, ça me rassurait aussi. Le fait de savoir ce qui allait se passer, ça me rassurait, je savais ce qui allait... Voilà, tout était calculé.
En fait, quand on est quelqu'un qui a un quotidien comme ça, ça peut plus influer sur la personnalité, je pense. Parce que en tant que capitaine ou en tant que championne, je pense que tu avais vraiment ce besoin de contrôle, ce besoin d'avoir la main mise. Sur beaucoup de situations.
Oui, c'est ça. Et après, tu sais, le volet, le sport, c'est comme dans la vie, hein, t'as plein d'imprévus. Donc si déjà tu contrôles pas ta routine et les choses que tu connais, dès que t'as un imprévu, tu perds la tête.
Tu contrôles plus rien.
Voilà, tu contrôles plus rien. Donc là, le volet, c'était pareil. Je savais ce que j'avais à faire, mais il y a un truc qui arrivait, fallait tout de suite trouver la solution et contrôler. Et essayer de contrôler.
Lily, on va te laisser enchaîner.
Ah, ouais. Alors... as-tu des conseils pour les gens, pour les jeunes qui stressent quant à leur choix d'orientation ?
Alors, j'ai pas vraiment de conseils parce que je sais pas décider. Je fais plein de trucs, mais je ne décide pas. En général, je laisse un peu le destin décider pour moi. Donc, si moi, par exemple, il y a quelque chose qui marche pas, je sais que c'est pas la bonne voie et je m'oriente tout de suite sur autre chose. Alors, j'ai pas vraiment de conseils à leur donner. C'est juste de prendre du plaisir dans la vie et de se dire que s'il y a quelque chose qui marche pas, il y aura forcément autre chose qui va marcher. Et de pas se mettre non plus une pression parce que on ne vit qu'une fois. Que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la chance pour beaucoup d'être en bonne santé, d'avoir une famille et des proches. Et je crois qu'il faut surtout profiter de ce qui se passe à l'instant présent. Je sais que vous êtes jeune et que vous avez les études, vous avez tous ces formulaires à remplir et sur internet, BacSup, BacSup. Bref, c'est compliqué. J'avais pas dans mon temps. C'était complètement différent et moi j'avais le volet vraiment en ligne de mire, alors je me suis mis, et moi, si t'as un rêve, essaye de mettre toutes les chances de côté pour y arriver.
Alors, que diriez-vous à la jeune personne de 17 ans que vous étiez ?
De se faire plus confiance. Parce que je me posais beaucoup de questions et j'avais pas forcément confiance, et je crois qu'il faut se faire confiance. Que ce soit moi, que ce soit vous maintenant, il faut vraiment avoir confiance en vous, et on est tous exceptionnels à notre façon d'être, de notre manière. Donc voilà, vraiment de se faire confiance.
C'est un très bon conseil.
Cool.
Vas-y, Mélie.
Comment gères-tu la pression et les attentes du public ? Gérais-tu ?
Ok. J'essayais de faire abstraction au public. J'essayais de me dire, maintenant t'es au match, mais si tu loupes, tant pis, c'est pas grave, c'est un point, c'est pas la fin du monde. Les gens, ils vont pas te lancer des cailloux et ils sont assez respectueux, ça va. Mais c'est pas facile. Parce que le public est assez... il veut des résultats, ce que je peux comprendre. Ils payent quand même leur place, ils veulent voir du beau jeu, ils veulent pas qu'on fasse des fautes, ils veulent pas qu'on tire la tête, donc il faut sourire, il faut être, faut faire du volley, mais en même temps, il faut faire de la comédie. Enfin, voilà. Il faut pas montrer ses faiblesses. Donc, c'était pas facile, mais j'essayais de faire comme si, voilà, on était à l'entraînement, tranquille. Les gens sont là, ils sont contents.
Et aujourd'hui, du coup ?
Et aujourd'hui, j'ai pas la même pression. Quand on crée un événement, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'attentes. Je me dis que de toute façon les gens ne vont pas voir s'il y a un truc qui dérape ou qui n'est pas forcément dans nos attentes à nous. Je me dis que c'est que le travail c'est la fête. Hein. Que si maintenant quelqu'un n'est pas content, je suis désolée pour lui, mais tant pis. Et puis on peut pas plaire à tout le monde de toute façon dans la vie. Donc on crée un événement, si ça te plaît pas parce que le contenu ne te plaît pas, c'est parce que j'arrive pas à cibler non plus tout le monde. On essaye que les événements soient assez populaires et un peu pour tous, mais c'est quand même compliqué. Donc voilà, je suis désolée si ça plaît pas.
Il y a une question que je me suis posée là pendant qu'on discutait. Comme tu as dit tout à l'heure, quand on est sportif professionnel comme ça, mais c'est un sport comme le volley, il n'y a pas autant d'engouement comme par exemple la boxe ou le foot. Mm-hmm. C'est pas des choses qu'on voit forcément tous les jours à la télévision. Est-ce que financièrement ça suit beaucoup ou juste dans la normale?
Alors moi j'ai eu de la chance de gagner assez bien ma vie en tant que volleyeuse professionnelle. J'ai pu mettre de côté parce qu'on a notre salaire. Mais on a aussi des avantages en nature. On a une voiture avec l'assurance, on a l'appartement, le loyer et les charges qui sont payées. Donc on a déjà pas ça à payer et à penser.
C'est déjà un point en moins.
Et moi, comme j'étais en équipe de France, etc., j'avais aussi des indemnités de la Fédération Française de Volley. Donc j'ai pu mettre de côté. En revanche, ce que j'ai gagné ne me suffit pas à finir ma vie avec. Comme un footballeur, comme un basketteur, comme certains sports en fait. Et en plus, moi j'étais une féminine. Il y a quand même une disparité assez incroyable au niveau des salaires dans le sport, que ce soit les femmes ou les hommes. Hein, mais ça, c'est encore un autre débat pour le coup. Mais voilà, j'ai eu la chance de pouvoir mettre de l'argent de côté et de ne pas penser à certaines choses, à certaines charges du quotidien.
Voilà. Ouais. C'est important d'en parler aussi, je pense.
Mais oui, non, mais bien entendu, totalement.
Alors... quel était votre métier de rêve étant enfant ?
Volleyeuse professionnelle ou je voulais être kiné aussi, voilà.
Kiné du sport ?
Oui, kiné du sport. Bon, j'ai vite oublié. Hein. Après, je suis restée sur volleyeuse professionnelle, ça m'allait très bien.
Ah, la kinésithérapie, c'est un domaine très intéressant.
Oui, totalement. Totalement. Après, c'est des études qui sont assez longues et assez lourdes, mais c'est vraiment très intéressant, effectivement.
Parce que ça me fait penser, là, il n'y a pas longtemps, on a dû faire des stages.
Enfin, oui.
Moi, du coup, parce que j'ai un long manque, c'est que depuis cette année, en seconde, on doit faire des stages, même si on est en général,
oui.
Un stage de 2 semaines. Et donc, je suis allé en kinésithérapie, on apprend énormément de choses.
Ah, cool, t'étais où ?
Un kiné à Riedisheim.
D'accord.
Et il faut savoir que lui, il avait des méthodes un peu particulières parce qu'il a fait des formations, du coup, en Thaïlande. Mm-hmm. Et en fait, on n'a pas du tout la même approche, qu'on soit sportif, qu'on soit dans la médecine, qu'on soit dans le massage, de la kinésithérapie. Mmh. Et en fait, c'est très intéressant.
Ouais, totalement. Oui, c'est très varié. Et suivant les personnes.
Booster ses capacités avec un massage ou ce genre de choses, ça peut être très intéressant même de le pratiquer sur soi-même en tant qu'amateur.
Mais oui, totalement. Ah, c'est cool. C'était quoi, une semaine hein?
Deux semaines.
Ah oui, 2 semaines. Ah oui, c'est vrai, on en a eu deux semaines aussi.
On va clôturer avec la dernière question.
Mais c'est ce que tu voudrais faire ?
Non. Okay. Ça m'intéressait beaucoup, mais après, disons que c'est un domaine très intéressant et franchement, c'est pas une idée à laquelle je me ferme. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir toucher les gens, de pouvoir cibler la douleur.
Oui, bien sûr.
C'est vraiment le contact physique, littéralement, mm-hmm. qui est particulier aussi, je pense.
Et tu sais déjà ce que tu voudrais faire ?
Non.
Et toi, Nelly ?
Pas du tout.
Et toi ?
J'aimerais bien faire de la recherche en intelligence artificielle.
D'accord. C'est chinois pour moi, ça.
C'est totalement différent. Du coup, voilà.
Ah, c'est bien.
Donc, c'est une question à laquelle on a déjà répondu.
Ah, ok.
Donc, comment avez-vous choisi votre orientation? Tu nous en as parlé tout à l'heure.
Quand tu étais au lycée.
Et je pense que c'est une certaine force de caractère de pouvoir dire je me focus sur ça et je m'en fiche de ce que les autres en pensent. Donc,
Ouais, mais je crois que c'est pas de l'égoïsme, mais disons qu'à un moment donné, si tu te focalises sur ce que les gens pensent de toi, tu te poses trop de questions et t'es complexé et je sais pas. Enfin, j'essaye. Après, c'est sûr que je fais quand même attention au regard des gens et voilà. Mais je ne m'aime pas moi parce que les gens m'aiment forcément ou tu vois. Je me dis que moi
je
déjà.
Je t'aime pas à travers le regard des autres en fait.
Voilà, c'est ça.
Je t'aime parce que ce que tu fais ou ce que tu es, ça te plaît.
Parce que je prends plaisir. J'essaye de prendre plaisir et puis si les gens sont pas contents. Bah tant pis, hein. Écoute, me regardez pas alors dans ces cas-là, et puis faites pas attention à moi, mais j'ai tendance à beaucoup parler et à parler fort, et c'est vrai que les gens sont des fois pas contents, mais bon, après. Ouais, voilà.
Je pense qu'à pire, ouais.
Oui, mais tu sais, après, le fait de jouer devant des gens, c'est pareil, au début, de oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser, et puis si j'ai le short qui monte, et puis après, on voit mon ventre. Tu sais, tu te poses plein de questions. Quoi qu'il en soit, tu te poses toujours plein de questions. Tu as de la tenue, qu'est-ce qu'il va dire l'autre? Mais après, au final, je crois qu'il faut se plaire à soi-même, avoir confiance en soi, ce que je disais tout à l'heure, pour ensuite être heureux dans la vie. Et les gens, quand ils sentent que tu es heureux, eh ben, ils vont plus rien dire sur ta gueule et ça va passer tranquille.
Tout à l'heure, on disait que pendant longtemps, t'avais dû avoir une hygiène de vie très irréprochable. Et que du coup, tu n'avais pas beaucoup de temps pour toi parce que tu es aussi casanière. Est-ce que du coup, t'as rencontré la personne, le papa de tes enfants, donc dans le milieu sportif?
J'ai rencontré, alors il est gestionnaire de patrimoine pour le coup, et je voulais acheter un appartement en fin de carrière. Donc j'ai dû. Donc j'avais une coéquipière qui était déjà chez lui, et elle m'a dit: ah, mais viens le voir et tout. Alors je suis sûre, on peut voir sa tête sur la photo. Ah ouais! Donc voilà, donc on s'est rencontrés comme ça. Mais lui me connaissait parce qu'il m'avait vu, j'étais sur le tram pendant un temps, et il m'avait vu jouer, donc voilà. Et après ça s'est fait naturellement.
C'est une belle histoire.
Mais oui, c'est vrai.
Mais je me demandais du coup, comment t'as vécu ce saut dans le vide? C'était pas. Confiance en toi qui t'a permis de.
Le saut dans le vide pour être voléeuse professionnelle?
Parce que
je me suis pas posé de questions en fait. Non. J'ai suivi. Je savais que je voulais faire ça. J'avais envie de le faire. Mais vraiment, c'était ma passion. Je jouais contre le mur toute la journée quand j'étais petite, quand j'étais jeune. Et je me suis pas posé de questions de savoir si j'allais réussir ou pas en fait. Enfin, il n'y avait pas d'alternative pour moi. Pour moi, c'était j'allais tout droit et puis on verra ce qui se passe. Mais pour moi, j'avais pas forcément confiance et j'allais me dire ouais, c'est bon, je vais réussir tranquille. Mais j'ai suivi une ligne et puis après, ce qui ne marchait pas, tant pis. Et je suis allée du côté où on me voulait déjà parce que on te recrute. C'est pas toi qui choisis le club où tu veux aller jouer forcément le club de tes rêves. Si t'as pas le niveau et on te prend pas. Donc après, j'allais vers les clubs qui me voulaient et vers les personnes qui étaient vraiment intéressantes. Magali Magaï, par exemple, qui est manager du VMA maintenant, qui était l'ancien entraîneur, elle m'a apporté beaucoup et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur elle. Donc c'est aussi après la chance de tomber sur les bonnes personnes au bon moment.
Est-ce que vous avez le souvenir d'un match qui vous a stressé et qu'est-ce que vous avez ressenti pour vous relever après ça?
J'étais stressée avant tous les matchs hein, parce que la pression m'aidait à être concentrée sur ce que je devais faire et si j'étais pas stressée, j'y allais un peu trop en dilettante et j'étais moins bonne en fait. Le stress m'aide à être bonne, enfin m'aidait à être bonne en tout cas à ce moment-là. Et il y a beaucoup de matchs où j'étais très stressée, comme des finales de championnat de France ou de Coupe de France, où il y a du monde, on sait qu'il y a des recruteurs, on sait qu'il y a des clubs étrangers, etc. Donc là, on se met encore plus une pression parce qu'on se dit, oh punaise, ça se trouve, c'est la chance de ma vie. Et donc voilà, mais après, le fait de... Moi, je dis, hein, il faut que je crie. Le fait de crier, ça m'a aidée. Et après, le fait d'avoir des coéquipières qui t'aident, parce qu'on se, du coup, après le fait de jouer tout le temps ensemble, on se connaissait assez bien pour savoir que quand l'une est en difficulté, l'autre est là pour aider, etc. L'entraîneur est là aussi pour aider. Donc voilà, donc j'ai pas répondu à ta question.
Non, si, c'est besoin de cette pression.
Est-ce que dans une équipe, du coup, est-ce qu'on perd tous ensemble et on gagne tous ensemble, ou est-ce que de temps en temps on peut jeter la pierre à quelqu'un? Est-ce que c'est possible ou pas?
Tu peux à un moment donné dire que l'autre elle a complètement foiré et que parce que c'est une pièce maîtresse, eh ben on a perdu. On a le droit de le penser, comme toi-même t'as le droit de dire punaise, ce match on a perdu à cause de moi parce que j'ai loupé les points importants et parce que j'étais pas à mon niveau. Il faut avoir toujours un niveau minimum syndical. Si tu descends en dessous de ton niveau minimum, tu fais perdre ton équipe. Donc oui, tu peux le dire. Après, effectivement, on dit qu'une équipe gagne ensemble et perd ensemble, mais t'as quand même des fautifs des fois. Hein. C'est dans la vie, hein. On peut apprendre tout sur ses épaules, mais il y a quand même toujours un fautif. Après, ça peut être l'équipe qui a été nulle en même temps. Mais il y a des joueurs, enfin, je sais pas, Mbappé, s'il est pas bon à un match, bah, tu le vois tout de suite parce que c'est quand même lui qui doit marquer, etc.
C'est l'affiche.
Voilà. Donc, malheureusement. Des fois, tu peux quand même jeter la pierre sur quelqu'un.
Mais du coup, quand tu perdais un match avec ton équipe, tu le vivais comment?
Très mal.
Ah ouais?
Ouais. Je suis assez mauvaise perdante, encore maintenant. Mais je le vivais très mal, jusqu'à me rendre à pleurer toute la soirée et tout. Mais ça, c'était vraiment... Surtout des matchs que tu dois gagner et où tu sais que t'es passé complètement à côté et où tu t'en veux. Après, il y a des fois, il y a des défaites, tu sais que c'est normal, donc ça passe mieux. Mais dans ces cas-là, il faut quand même montrer un bon visage de toi-même, et, etc. Mais je suis assez mauvaise perdante, même maintenant, encore, quand on joue au ping-pong ou à autre chose, ou avec mes enfants. Hein, si je joue vraiment et que je perds, je casse un peu les boules. Hein. Bon, je jette pas les cartes au visage, mais voilà. Non, je suis assez mauvaise perdante.
Mais du coup, comment tu voyais justement de perdre, etc. Est-ce que c'était un échec pour toi ou c'était quelque chose avec lequel tu pouvais
avancer?
Ouais.
Mais en fait, tout dépend des défaites. Si tu joues ton niveau et tu apprends quand même de ta défaite parce que tu te dis bon, ben voilà, à ce moment-là, il fallait faire autre chose et puis réfléchir, tu vois, être plus serein, avoir plus confiance. Il y a des défaites où tu passes à côté de ton match, le match ça servait à rien et laisse tomber, tu vois. Donc il faut apprendre de ces défaites. Après, j'ai appris à perdre, hein. Je sais perdre quand même et je jette pas la raquette de ping-pong au visage d'Anthony ou de Dorian, mais il faut apprendre à perdre, mais il faut aussi apprendre de ces défaites, comme de ces victoires. De toute façon, je crois que chaque période ou chaque événement pour moi maintenant, on apprend. Il faut toujours apprendre de ce qui se passe, des situations.
Ouais. C'est vrai. Mais en fait, je pense que ça dépend aussi de l'importance que tu donnes au match. Si maintenant, il y a un match, tu t'es vraiment conditionné à le gagner, que tu savais dans ta tête que tu allais le gagner, vraiment tu étais prêt à le gagner, et que tu le perds, ça fait mal.
C'est une blessure quand même.
Et aussi, à contrario, si tu n'as pas donné assez d'importance au match et que tu l'as perdu parce que justement tu ne l'as pas pris assez au sérieux,
voilà, oui, c'est ça.
C'est un problème.
Ouais, totalement.
Là, tu peux t'en vouloir quand même dans
mais
ce cas-là.
Mais oui, tu as totalement tout bien résumé. C'est ça.
Je me demandais si tu avais déjà eu du jugement par rapport au fait que tu es une femme, par exemple, ou que tu jouais au volet. Est-ce qu'il y a déjà eu des gens qui t'ont jugé et qui ont dit « Oh, c'est que du volet » ou « T'es une femme, du coup, tu peux pas jouer » ou je sais pas ce genre
non,
de choses?
Non, ça va. Par rapport à ça, non. Et non. On n'était pas encore dans le... dans ces critiques-là. Non, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que les réseaux sociaux commençaient à peine quand je finissais ma carrière. Donc j'ai eu quelques critiques. Hein. J'ai eu des critiques quand j'entendais que les gens.
Hyper médiatisé, quoi.
Non, ça, franchement, ça, c'était... Alors, j'ai eu, parce que nous, le volley, quand on joue en équipe nationale, on était quand même retransmis à la télé. C'est, ça l'était un peu plus que maintenant, j'ai envie de dire, limite. Et j'ai les commentateurs qui m'ont assassiné tout un match. Alors moi, le match, je le joue, donc j'entends pas les commentaires, mais c'est plus ta famille, tes amis qui entendent ça, et ça leur fait mal au cœur. Au final, toi, tu l'entends que après. Donc déjà, ça te fait mal au cœur à toi. Mais c'est surtout ta famille et tes proches. Mais eux, ils ont souffert, les pauvres. Donc voilà, donc c'est pour ça que les jugements, les réseaux sociaux, j'ai les comptes, hein. Je regarde ce qui se passe, mais je vais pas émettre de jugement sur tel ou tel... par exemple, sur la scène d'ouverture des JO, j'ai adoré. Alors après, oui, il y a des choses qui sont un peu décriées et complètement hors du temps. Mais c'est un travail c'est pareil, nous, quand on joue au volley, en tout cas pour moi, je mettais tout mon cœur, j'étais à fond. Donc je trouve ça un peu dégueulasse quand les gens disent oh, « t'as vu comme elle était nulle ». Ben ouais, ben à un moment donné, je viens pas te critiquer à ton boulot parce que t'as écrit un mot de travers ou il y avait une faute d'orthographe. Donc voilà, mais j'ai eu des critiques qui m'ont blessé moi, mais ça blesse énormément la famille en fait. C'est ça, c'est très très dur. Mais bon, c'est comme ça.
En fait, disons qu'on n'a pas cette culture-là de se mettre à la place de la personne. En fait, nous on voit quoi? On voit un programme, on voit du divertissement et on consomme le produit, et si on n'aime pas, bah, on le dit haut et fort, alors qu'en fait il n'y a une personne derrière tout ça.
Totalement.
Donc par exemple là j'avais vu aux Jeux Olympiques, bon la vidéo là, elle est un peu marrante, tout ce que je veux dire, il y avait un athlète congolais qui était en train d'essayer de pousser le poids du corps.
Ah oui.
Et il est tombé à 3 reprises parce qu'il n'arrivait pas à pousser la charge.
Mais oui.
Mais en fait on n'en sait rien, déjà le mec il est arrivé jusqu'ici.
Mais bien sûr.
Le mec il est arrivé au niveau des championnats nationaux, internationaux, il est là, il est aux Jeux Olympiques. Qui peut en dire autant dans tous les gens qui sont moqués de lui? Qui peut en dire autant? Personne.
Mais après, il y a des choses qui sont risibles. Hein. Franchement, je suis la première à me moquer quand quelqu'un tombe. Moi, c'est un truc, je n'arrive pas à me retenir. Donc, je peux comprendre qu'on se moque. Mais écrire des choses où t'es moche, où t'es grosse...
On n'est pas là pour ça. Quoi.
Tu vois, c'est pas fondé. Après, ce qui est... Elle doit être certainement rigolote, cette vidéo. C'est comme le nageur... africain qui arrive, je sais pas, une demi-heure après. C'est touchant, mais c'est rigolo quand même. Donc voilà, on a le droit de rigoler, mais après, se moquer et être méchant, enfin, se moquer, on a le droit, mais être méchant et faire des critiques non fondées et aucunement constructives, je trouve ça un peu ridicule. Mais bon. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça touche énormément les gens, même si on se dit, ouais, je m'en fiche, ça touche.
Quand il y a 1 million de personnes qui t'ont vu, avec au moins la moitié qui se sont moquées de toi, c'est
mais oui,
un point
c'est
quand
ça.
Même.
Voilà, exactement.
Penses-tu que le sport aide dans la gestion du stress?
Oui. Alors en temps normal, pas forcément dans une vie. Je pense, oui. Franchement, parce que on a besoin dans la vie de s'extérioriser, de se dépenser. Si tu gardes toute ton énergie, au bout d'un moment, tu vas avoir une boule de nerf qui est en toi et tu vas vouloir taper quelqu'un ou taper contre la vitre, enfin bref. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de sport. Mais que ce soit juste de la marche ou courir 10 minutes, ou je crois que ça fait vraiment... C'est bénéfique. Même pour le sommeil. Si tu te couches et que t'es pas fatigué, bah, tu vas être sur ton téléphone, tu vas encore regarder, tu vas scroller et puis après tu vas... dormir avec les yeux fatigués et voilà. Donc je pense qu'effectivement tu as besoin pour t'extérioriser, sortir les tensions que tu as dans la journée, parce que finalement vous avez une pression quand même avec l'école, vous avez une pression de résultat, vous devez apprendre et tout, mais vous avez quand même besoin de vous défouler. Alors vous avez sport, hein, mais c'est pas ça non plus qui fait que vous allez vous défouler. Donc le fait donc pour se défouler, pour sortir la pression que tu accumules et pour mieux dormir. Et après, je me dis que si tu fais un peu de sport, tu te dis « Ah ouais, ce serait cool que je mange aussi un peu sainement, que j'évite de manger ce paquet de chips ou ce paquet de bonbons, que je fasse un peu gaffe. » Et je me demande si après, l'hygiène de vie ne suit pas.
Moi, je pense que c'est un effet boule de neige. Hein. C'est comme ça dans les deux sens. Par exemple, si on modifie une seule chose dans notre hygiène de vie et qu'on la prend à la légère, que ce soit par exemple ranger sa chambre, que ce soit quelque chose dans l'alimentation, le fait de grignoter, les autres,
ouais, totalement.
tout suit en fait.
C'est ça. En fait, tu mets de l'ordre dans ta tête un peu. Ne serait-ce que... C'est vrai que ranger sa chambre, faire son lit le matin, tu sais que tu vas rentrer le soir nickel, tu n'auras pas ça à faire, tu n'auras pas le brouillon dans ta tête. Mais bon.
Parce que tu rentres, tu as déjà passé une mauvaise journée.
C'est ça.
Et tu vois un bordel pas possible devant toi. Ça donne pas envie.
Mais oui, c'est ça. T'as pas envie de travailler, t'as pas envie, t'as juste envie de te coucher ou de regarder la télé et être tranquille.
La procrastination, ça va très vite, mais on s'en sort difficilement.
Exactement.
Je me demandais, du coup, est-ce que ton ancienne carrière et ton ancienne vie, si on peut l'appeler comme ça, elle t'aide encore aujourd'hui ?
Oui, quand même. Je pense que je ne serais pas forcément là où j'en suis maintenant. Alors, je ne parle pas forcément à l'événementiel sportif, mais ça m'aide parce que j'ai pris confiance en moi aussi. Quand on fait du sport comme ça, on prend conscience de ses qualités aussi. Et j'ai réussi, je pense, à transposer ce que je donnais dans le sport dans ma vie professionnelle. Et dans ma vie privée aussi, hein, pour le coup. Donc voilà. Donc oui, je pense que ça m'aide. Après, il y a encore des gens qui me reconnaissent. Donc j'ai encore droit à des gentils mots, des choses comme ça. Donc ça fait toujours plaisir. Et voilà. Et après, je me suis tissé un réseau aussi grâce au volet. Où du coup, c'est plus facile de prendre son téléphone et d'appeler les gens pour qu'ils nous aident. Donc voilà. Donc oui, ça m'aide encore.
Après, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a tous besoin d'un exutoire et je pense que ça t'a aidé à te construire en tant que personne parce que
oui.
On reste la somme de notre vécu et du coup, ça fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Donc, bien sûr que ça t'aide toujours et ça t'aidera toujours, je pense.
Oui, c'est ça, effectivement.
Du coup, si c'était à refaire, vous le referais ?
Je ferais tout pareil.
Tu veux le parcours ?
Après, j'ai envie de dire, j'aurais pu reprendre mes études et tout, mais bon. J'étais bien aussi sans études hein, à ce moment-là, où je faisais que du volet, je faisais mes siestes, et j'étais cool. Hein. Donc, je vais pas à revenir en arrière et je resterai comme ça. Ça m'a bien plu.
Mais du coup, tu penses que, je me permets, mais si tes enfants, ils prenaient aussi ton exemple à toi et qu'ils voulaient faire, par exemple, du volet ou une autre carrière dans le sport ou dans, je sais pas, le cinéma, etc., plutôt risqué entre guillemets, est-ce que tu arriverais à lâcher prise et à accepter ça?
C'est compliqué parce que, c'est mon mari qui le dit, je suis partie à l'âge de 14 ans à Paris, à l'INSEP, à l'Institut National des Sports, donc je partais toute la semaine et je rentrais le vendredi soir pour repartir le dimanche soir sur Paris. Et pendant 3 ans. Et mon mari dit toujours, mais punaise, tes parents, quel courage ils ont eu de te laisser partir à 14 ans en sachant que pas trop ce qui se passe, et même si t'es dans un internat qui est sécurisé, qui est surveillé, tu sais jamais ce qui se passe. Je sais pas si je laisserai partir ma fille en internat, je crois que je vais attendre que ça arrive. Elle a 8 ans, j'ai encore un peu le temps. Mais c'est compliqué. Je sais pas si j'aurais le courage que mes parents ont eu de la laisser partir. Après qu'elle fasse du sport professionnel, oui, je dirais qu'on vit qu'une fois, hein, qu'elle essaye, qu'elle tente sa chance et voilà. Mais internat et tout, je suis encore un peu sceptique.
Après, je pense qu'on vit pas la même époque aussi. Donc
c'est
dans les deux sens, il y aura une différence. Déjà, elle pourra beaucoup plus se donner des nouvelles parce que vu la communication commence à évoluer. Et aussi dans le mauvais sens aussi, à contrario, c'est pas les mêmes mentalités.
Totalement.
À l'époque, une petite 14 ans, c'était une petite 14 ans. Maintenant, c'est plus la même chose.
Oui, non mais totalement, t'as tout résumé. C'est vrai que maintenant, cette génération, c'est compliqué. Hein. Je sais pas comment je la vivrais, moi, à votre place, mais vous avez l'air quand même assez en bonne... je sais pas, vous avez des bonnes têtes, vous êtes bien et tout, vous êtes souriant, donc je trouve que... vous êtes cool, mais c'est vrai qu'il y en a, tu vois, qui portent un peu le malheur sur eux et toute cette charge. Je trouve qu'il y a une charge quand même assez importante, une charge mentale avec ces réseaux sociaux et tout ça, mais je la dis pas. Je ne sais pas.
Mais je me demandais, est-ce que, en tant que jeune aussi, parce que tu disais que tu es parti à 14 ans, est-ce que le sport t'a éloigné de la crise d'ado, entre guillemets, ou est-ce que...
Ouais, je pense. Non, Alors mes parents ont certainement eu des crises d'ado quand je rentre et je tire la tête et voilà. Je pense qu'ils l'ont eu, mais ils l'ont moins vécu peut-être. Et c'est vrai que là j'étais en internat, donc j'avais aussi des règles à suivre. Si tu partais à droite, là, ça n'allait pas, donc il fallait rester dans les rangs. Et après j'y étais pour le volet aussi, volet études. Donc je savais ce que je voulais faire aussi et j'étais à fond, hein, franchement j'étais trop contente d'être là-bas et donc je pense qu'effectivement j'ai moins eu cette crise d'adolescence.
C'était un bon cadre
pour toi ? Oui, totalement.
Parce qu'en fait quand on y pense, la crise d'adolescence c'est pas seulement hormonal et je pense qu'on a mis trop ça sur le compte hormonal parce que c'est plus une crise identitaire qu'autre chose. Je te dis, on essaye de se repérer entre l'enfance et le fait d'être adulte. Et quand on ne donne pas le statut qu'on pense mériter, bah ça y est, ça part très vite.
Ouais, non, c'est chaud, mais t'as raison, c'est vrai.
On est en pleine construction à cette période-là et après on sait pas comment réagir face à certaines réactions et personne ne sait réagir face aux nôtres, donc on est vraiment perdu. C'est un flou.
Mmh. Ouais. Bon, après la crise d'adolescence, c'est pas facile hein, quand même. Hein. Moi, je vois ma fille des fois 8 ans, elle fait déjà des petites crises, tu te dis oh punaise, alors qu'elle est cool hein. Mais tu te dis punaise, dans quelques années, qu'est-ce que ça va être ? Mais je pense que quand t'as un cadre et que les gens te considèrent aussi à ta juste valeur, effectivement, comme tu disais, c'est peut-être plus facile aussi. Ouais, c'est une crise identitaire.
Ouais. Après, certains, c'est un couteau à double tranchant. Hein. Certains deviennent adultes trop tôt à cause de ça, ou d'autres, au contraire, vont se reposer sur leur laurier. Ils pensent que c'est bon, on me considère comme un enfant, j'en serais toujours un. Après, un complexe de Peter Pan,
c'est vite, quoi. Oui, c'est ça, totalement.
Ouais, ça va très vite, ce genre de choses. Faut vraiment veiller au grain à cette période-là, je pense.
Ouais. Ouais, bon, c'est pas facile. Hein. Mais bon. Après, je crois que le cadre, c'est quand même très important. Si tu mets un cadre, que ce soit tout le monde, hein, que ce soit au travail avec des gens de 40 ans, si tu as un cadre, c'est plus facile pour tout le monde. Alors que si c'est un peu... la fête, t'es cool, alors tu peux être cool, mais en mettant un cadre quand même, je crois que c'est vraiment très très important les cadres qu'on établit et qu'on met en place.
Après, je pense que toi, t'as eu ton cadre sportif et aussi éducatif, du coup, parce que t'as grandi dedans, en fait.
Oui, totalement. Le sport, déjà, l'école met un cadre, les parents mettent un cadre, et là, j'ai eu le sport en plus qui me mettait un cadre. Je dis pas que j'étais réglo, que j'étais cool tout le temps et que je suivais... Il m'arrivait de sortir du cadre, mais le problème c'est que quand tu sors du cadre et tu te fais choper.
T'as plus envie d'en ressortir.
T'as plus trop envie d'en ressortir. Donc soit t'es malin et tu te fais pas choper, ou alors t'es complètement con et puis.
Ouais. C'est sur ces jolis mots, je pense qu'on va clôturer l'interview de la poche chocolat chaude.
Bon, c'était cool, merci beaucoup.
Merci pas toi, à toi.
C'était plaisir.
C'était super.
Vraiment, c'était super, on a passé un bon moment.
Non, cool, moi aussi.
On en ressort tous grandis, je pense. Ah,
merci vraiment beaucoup, c'est génial.
Y'a pas de soucis.
Merci à toi. Quand tu veux.